stupeur, torpeur. Je repense à ce qu'une amie m'écrivait il y a quelques jours, suite au confinement. Je ne parviens plus à fixer mon attention, plus à commander à mon esprit. Mon corps semble perdre pied. Nous sommes cloîtrés dans des lieux qui nous sont les plus familiers et nous sommes pourtant déracinés. J'aime bien la façon dont elle écrit et je m'y retrouve. J'aime bien comme elle cherche à mettre des mots sur ce qui se passe pour elle et les mots qu'elle trouve pour le faire. Et il est probable que quelques-uns au moins ressentiront les choses de façon identique, comprendront, toucheront de leur sensibilité, toucheront de l'intérieur du corps, de l'intérieur, ce qu'elle exprime ou ce qu'elle pouvait ressentir au moment où elle écrivait cela. Un bon nombre d'entre nous peuvent se trouver habités de décrochage, de déplacement intérieur, psychologique ou physique de ce type. Au cours de la première semaine, alors que je ne suis pas en prise directe sur l'actualité, c'est le moins qu'on puisse dire, je découvrais avec surprise que le peu que je savais, le peu que j'entendais, retentissait sur moi, à moins que ce soit les limitations à l'exercice physique, mais c'était vraisemblablement les deux à la fois, retentissait par des tensions physiques, tensions psychiques. Donc une tension individuelle liée certainement à la tension collective. C'est probablement d'autant plus vrai que beaucoup vivent en prise très directe avec les informations qu'ils entendent, qui se présentent à eux, qu'ils vivent au rythme des informations qui se succèdent sans discontinuer. Et peut-être certains passent de leur radio à Internet, à la télévision, au smartphone, et les voilà baignés dans des discours qui mêlent des mots comme confinement, hospitalisation, nombre de défunts, nombre de rescapés, évolution dans le monde, etc. Et même quand on décide de décrocher, quand on essaie de décrocher, même quand on veut arrêter ce flux, on se surprend parfois à y revenir. Même quand on sait que les choses ne peuvent évoluer qu'à un rythme escargotique. Il faut du courage pour dire je ne suis pas ça d'heure en heure. Je choisis de faire autre chose. On lutte à contre-courant de notre entourage et peut-être contre une partie de nous-mêmes. Et cela, même quand on n'a pas l'intention pour autant d'adopter la stratégie de l'autruche. Donc même en voulant prendre un peu le large, on se surprend à y revenir. Là où nous habitons et où nous sommes invités à rester confinés, à ne pas aller à l'extérieur, nous voilà habités par ce qui se passe à l'extérieur. Nous voilà travailler avec une intensité variable en fonction des moments. Alors je voudrais juste corriger en disant qu'un certain nombre d'entre nous le sommes. Parce que je m'empresse, et si vous me connaissez, vous pourrez dire une nouvelle fois, et j'aurai même l'occasion d'y revenir à la fin, il y aura une nouvelle fois à la fin. Donc je m'empresse de dire que c'est ce que ressentent une partie d'entre nous. Qu'il s'agisse de confinement ou d'autres choses, ce que nous pouvons chacun ressentir est très loin d'être universel. Parce que chaque événement singulier nous affecte chacun singulièrement. Et vous savez que j'aime à y insister, surtout quand on se met à tenir des propos comme « les autres devraient ressentir la même chose que moi, la même joie, la même colère, la même indignation, la même admiration, la même stupeur, la même torpeur ». Le fait est que d'autres ne ressentent pas ça du tout, et qu'ils auraient beau même s'y forcer, chercher à aller dans ce sens, à supposer qu'on les en convainque, ils auraient même le désir de le faire, mais ce n'est pas ça qui se produit, tout simplement. Cela dit, même si nous ne ressentons pas cela, si nous n'avons pas ressenti cela, au moment présent, la stupeur et la torpeur, la préoccupation, même si, donc si nous ne les ressentons pas ou même si nous ne les ressentons plus, nous pouvons les voir présents. Les titres de nos actualités en témoignent et les nourrissent en même temps. Et la vie quotidienne réorganisée, la quantité de coups de téléphone, de SMS, de mails, nous y renvoient plus ou moins. Donc même si nous ne ressentons pas ou si nous ne ressentons plus cela, nous savons au moins un peu de quoi il s'agit, parce que c'est là présent. Alors nous pouvons peut-être du coup toucher de la sensibilité du corps, de l'intériorité, ce que pouvait exprimer à une époque ancienne, à une époque bien plus ancienne que celle de Luther, dont j'ai parlé la semaine dernière, un des auteurs bibliques, le prophète Jérémie. Jérémie, appelé par Dieu à être son porte-parole, appelé apparemment tout jeune, et Jérémie qui n'est pas très à l'aise avec un tel appel. Chapitre 1, verset 6, il dit « Je ne sais pas m'exprimer, je suis un adolescent. » Jérémie, qui s'entend pourtant dire « Avant ta naissance, je t'ai destiné à être prophète. » Et on pourrait imaginer que ça va le décongestionner, le booster, mais pas du tout. Et Jérémie qui va devoir, en même temps, assumer ce rôle. Et qui va devoir assumer ce rôle sans doute à la période la plus sombre, la plus traumatisante de l'histoire d'Israël. Jérémie en effet parle à un peuple, il parle à son peuple, et le peuple ne veut pas l'écouter. Et on entend Jérémie qui pleure avec Dieu devant la résistance, devant la répugnance du peuple à entendre son appel. Et on est là, en fait, au pic de la crise, au pic de la révolte, de la résistance. Jérémie qui parle à un peuple, au moment donc où ce peuple ne veut pas l'entendre, et au moment où le peuple est dans le déni devant les armées ennemies qui encerclent et qui confinent la ville. Là, on pouvait sortir de chez soi à l'époque, mais on ne pouvait pas sortir de la ville. Ou bien si on sortait, c'était au risque de sa vie. Donc, Jérémie parle à ce peuple au moment où les armées ennemies encerclent et confinent la ville, au moment où d'autres, en plus d'autres prétendus porte-paroles de Dieu, des soi-disant prophètes, disent aux habitants de Jérusalem que Dieu va les garder une fois de plus, que le temple de Dieu, lui, ne peut pas être affecté, que Dieu y habite. Le temple, c'est la demeure de Dieu. Que Dieu va le garder. Des prophètes qui répètent à l'envi, d'une voix forte, avec leurs belles cravates, avec leur belle tonalité pieuse. Voici le temple de l'Éternel. Voici le temple de l'Éternel. Oui, c'est ici qu'est le temple de l'Éternel. Ennemi, va-t'en au nom du peuple du temple de l'Éternel. Alléluia, je proclame la victoire au nom de l'Éternel. Et Jérémie parle au moment où Jérusalem n'est plus à l'époque que le dernier îlot, le dernier refuge, le dernier lieu de résistance en Israël. Jérémie va se trouver au bout du siège, au bout du long siège où il est impossible de quitter la ville. Jérémie parle à l'époque où Jérusalem va se trouver exposée par ses brèches et finalement investie, dévastée et en partie au moins détruite. Et la grosse partie du peuple va se trouver exilée, va se trouver déportée, nus et maigres, tremblant dans des wagons plombés, s'il y en avait eu à l'époque, scellant ce qui est la crise majeure dans la relation d'Israël avec Dieu. Et parce que nous vivons dans un climat qui le rappelle un petit peu, qui le fait sentir un petit peu, nous pouvons peut-être du coup mieux entendre toute la stupeur que le prophète exprime dans ce petit livre que sont les Lamentations de Jérémie, sur lesquelles je vais rester et dont je vais lire quelques extraits au fil des chapitres. Je ne vais pas indiquer à chaque fois la référence, vous pourrez y retrouver dans votre Bible, je lis la version du Semeur. Comme elle reste solitaire, la cité qui naguère était si populeuse. Elle est comme une veuve. Elle qui était importante au milieu des nations, princesse des provinces, elle est astreinte à la corvée. Ses portes sont en ruine, ses prêtres se lamentent, ses jeunes filles sont affligées. La ville est remplie d'amertume. La communauté de Sion a été dépouillée de toute sa splendeur. Au jour de son humiliation et de sa vie errante, Jérusalem se souvient des trésors qu'elle avait autrefois. Maintenant que son peuple est, tout entier, tombé aux mains de l'oppresseur, sans qu'il y ait personne qui vienne à son secours. Elle est tombée. Sa chute est étonnante et nulle ne la console. L'ennemi a pillé tous ses objets précieux. Elle a vu les nations pénétrer dans son sanctuaire, dans le temple. Tout son peuple gémit en recherchant du pain. Il donne ses trésors contre des aliments pour reprendre des forces. Vois, Éternel, dit-elle, et considère l'abjection où je suis. N'êtes-vous pas touchés, ô vous tous qui passez? Regardez et voyez s'il est une douleur comparable à la mienne qui me fait tant souffrir. En Sion, l'Éternel a livré à l'oubli les jours de fête et de sabbat. Les responsables du peuple de Sion sont assis sur le sol et gardent le silence. Ils ont revêtu des habits faits de toile de sac et ils se sont jetés de la poussière sur la tête. Ce sont des signes de deuil de l'époque. Les jeunes filles de Jérusalem courbent la tête jusqu'à terre. Mes yeux s'épuisent à verser des larmes et l'émotion me brûle. Tout courage me quitte à cause des malheurs qui ont frappé la communauté de mon peuple, à cause des petits-enfants et des nourrissons qui défaillent dans les rues de la ville, Ils disent à leur mère, « Où y a-t-il du pain ? Où y a-t-il du vin ?» Alors on ne le voit pas dans la traduction française, mais c'est un poème que le prophète écrit. On a affaire en hébreu à un poème qu'on qualifie d'acrostiche, c'est-à-dire en fait que chacune des phrases sont construites en commençant chacune par des lettres successives de l'alphabet. Le prophète cherche à mettre des mots sur ce qui se passe. Il le dit de cette façon poétique, comme l'on dit parfois sa souffrance en poésie, parce qu'on peut ainsi la dire avec d'autant plus d'intensité, avec plus de présence, quand on la dit en rime, quand on la met en rime. Je pense à un texte de Brel. Ne me quitte pas. Il faut oublier le temps des malentendus et le temps perdu, à savoir comment. Oublier ces heures qui tuaient parfois à coups de pourquoi le cœur du bonheur. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Jérémie lui écrit, « Se peut-il que des femmes dévorent les enfants qu'elles ont mis au monde, les bébés qu'elles ont choyés? Se peut-il que l'on tue les prêtres, les prophètes, jusqu'au sein même du sanctuaire du Seigneur? Les enfants, les vieillards, jonchent le sol des rues. » Stupeur. C'est un poème, mais c'est un poème qui décrit la réalité de ceux qui se voient dans les rues de Jérusalem, la réalité de ceux qui habitent la ville, la réalité de ceux qui habitent les cœurs. Et pour Jérémie aussi, vraisemblablement même averti et même porte-parole de cela, même pour lui qui s'est efforcé de mettre en garde pour que cela n'arrive pas, cela reste la stupeur. Nous avons en partage, écrit-il, l'effroi, la fosse, la destruction, la ruine. Je verse des torrents de larmes à cause du désastre qui a atteint la communauté de mon peuple. Touchons cela de notre intériorité. Si je vous propose ce texte ce matin, eh bien pourtant c'est pas pour ajouter à la sinistrose, pour faire peser encore un peu plus de poids, un peu plus de lancinance. Déjà on pourrait rien que mesurer le contraste entre ce que Jérémie nous dépeint et ce que nous connaissons aujourd'hui. Nous ne marchons pas dans une ville dévastée. Nous ne marchons pas dans une ville où les enfants et les vieillards jonchent le sol des rues. Nous ne marchons pas dans une ville ou dans des villes marquées par la disette, où l'on va jusqu'à dévorer les enfants. D'autre part, le contexte aussi n'est pas le même. Pour Jérémie, c'est à cause de la révolte du peuple contre Dieu qu'il se passe ce qui se passe, et c'est une vieille histoire de révolte. Il est plus périlleux aujourd'hui de faire des propositions explicatives de cet ordre, même si certains ne s'en privent pas. Mais ce qui me frappe en fait dans ce poème, c'est l'attachement que Jérémie exprime à l'égard de Dieu. Car c'est à peu près au tout milieu du livre qu'on entend, donc au cœur du drame, au cœur de ces expressions de stupeur, des paroles qui ont un côté étonnant et bouleversant à la fois. Je lis au chapitre 3. Mais voici la pensée que je me rappelle à moi-même, la raison pour laquelle j'aurai de l'espérance. Non, les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme, et ses tendresses ne sont pas épuisées. Chaque matin, elles se renouvellent. Oui, ta fidélité est grande. J'ai dit, l'Éternel est mon bien, c'est pourquoi je compte sur lui. L'Éternel est plein de bonté pour ceux qui ont confiance en lui, pour ceux qui se tournent vers lui. Il est bon d'attendre en silence la délivrance de l'Éternel. Et de part et d'autre de ce passage, c'est le chant de la douleur, c'est le chant de la stupeur, de la torpeur. Mais avec ce passage, donc au cœur du livre, au cœur du texte de stupeur, il y a cette expression de résolution et de confiance. Comment, si Dieu est tout-puissant, et si Dieu est amour, comment peut-il se produire de tels drames? Entend-on parfois, ou dit-on parfois? Et celui qui exprime cela, devant celui qui exprime cela, on hochera la tête, tant l'argument paraît fort. On se mettra en résonance avec le cœur, tant cela paraît convaincant, tant la même question nous rejoint et nous fait vibrer. Jérémie n'est pas différent de nous. Il n'était probablement pas plus primitif, plus bête que nous. Jérémie non plus n'est pas aveugle. Là où il est, avec ce qu'il voit dans les rues, il ne peut pas l'être. Jérémie ne doute pas de la toute-puissance de Dieu. Au contraire. Et Jérémie, nous l'entendons ici, ne doute pas de l'amour de Dieu. Au contraire. Pour lui, pour tant d'auteurs bibliques, pour tant de chrétiens avant nous, pour Jésus lui-même, la torpeur, la lutte, la souffrance n'entament pas pour autant la confiance en Dieu. Et pour Jérémie et pour tous les autres, aucun de ces gens-là ne vivait dans un monde aseptisé, dans un monde sécurisé. Il vivait même dans un monde où l'on n'avait pas l'impression de sécurité qui peut être la nôtre, ou en tout cas une impression de sécurité comme celle que nous pouvions encore avoir il y a un mois. Comme le dit très bien C.S. Lewis, la foi chrétienne se déploie dans un monde où il n'y avait pas de chloroforme. La foi continue à se dire au moment même où tout un peuple est en deuil. Alors, en constatant cela, j'ai du coup beaucoup de mal à penser et à endosser l'idée que on ne croit en Dieu que par facilité. Ou bien que si l'on en vient à croire en Dieu, ce serait par faiblesse, par naïveté. et que c'est bien gentil, ça donne de l'espoir de croire en Dieu. Mais bon, ce n'est pas voir la réalité du monde. Alors, une nouvelle foi, c'est-à-dire une nouvelle foi, ce qui peut paraître logique aux uns, Dieu ne peut pas exister, être bon et tout-puissant, il est évident que tout le discours biblique peut être jeté à la benne dans ses ridicules. Donc ce qui peut paraître logique aux uns ne l'est pas autant pour d'autres. Jérémie et ceux qui, comme lui, ont continué à espérer avaient bien plus que nous des raisons de désespérer. Bien plus que nous, leur façon d'imaginer Dieu pouvait être en crise. Et pourtant, ils ont continué, même au pire du pire, de faire le choix de s'attacher à Dieu. Jérémie entend les cris de son peuple. Jérémie respire l'odeur des charniers. Jérémie croise les regards hagards et lui-même est stupéfait. Il est hanté par ses questions. Il est hanté par la souffrance de son peuple et par le poids psychologique que ça représente de vivre tout ça, d'être en prise directe humaine. Pas par un écran simplement de télévision, comme beaucoup d'entre nous, mais avec les voisins, avec les personnes qui vivent et qui souffrent. Il est hanté par la souffrance de son peuple. Et parce que c'est les mots qu'il prononce sont au milieu, sont au cœur de tout cela, les mots que nous lisons au cœur de son livre, continue du coup à avoir un poids, à avoir un relief, une force d'appel qui est surprenante. Voici la pensée que je me rappelle à moi-même, la raison pour laquelle j'aurai de l'espérance. Non, les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme, et ses tendresses ne sont pas épuisées. Chaque matin, elle se renouvelle. Oui, ta fidélité est grande. J'ai dit, l'Éternel est mon bien, c'est pourquoi je compte sur lui. L'Éternel est plein de bonté pour ceux qui ont confiance en lui, pour ceux qui se tournent vers lui. Alors nous qui vivons après la venue du Fils de Dieu, venu donner sa vie pour nos péchés, nous pouvons bien plus que Jérémie mesurer combien cette bonté de Dieu, elle n'était pas à son terme, et même quel chemin Dieu lui-même a entrepris pour nous en donner l'expression jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort de la croix, jusqu'au matin de la semaine pascale. Alors je nous invite, nous aussi, à partir de là, à nous rappeler à nous-mêmes cette pensée et cette raison d'espérance. Non, les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme, et ses tendresses ne sont pas épuisées, même aujourd'hui, en avril 2020, chaque matin elle se renouvelle. Oui, ta fidélité est grande. Je veux dire, l'Éternel est mon bien. C'est pourquoi je compte sur lui. L'Éternel est plein de bonté pour ceux qui ont confiance en lui, pour ceux qui se tournent vers lui.